vision. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 7 décembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Seguglia.
Eric Manirakiza.
Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, libération conditionnelle de Vital Kamerhe, l'ex-directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi.
Omicron, le Nigeria juge discriminatoire l'interdiction de voyage décrétée contre ce pays par le Royaume-Uni.
Des milliers de Soudanais anti-putsch dans la rue hier, tirs de gaz lacrymogène.
Entretien virtuel aujourd'hui entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine.
N'en manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, Vital Kamerhe, condamné à 13 ans de prison pour détournement de deniers publics, a obtenu une remise en liberté provisoire. Eddie Isango fait le point sur le sort de l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi.
C'est aujourd'hui que Vital Kamerhe doit formellement retrouver la liberté provisoire. Son avocat, Maître Kaboto, a affirmé qu'il ne reste plus que les formalités administratives de la prison. La Cour de cassation a notifié sa décision hier aux autorités de ces lieux de détention. Ses avocats espèrent que la voie est désormais ouverte pour que la Cour de cassation revienne sur sa condamnation. Pour eux, il y a absence de preuves des détournements qui lui sont imputés. M. Kamerhe a dû payer 500 000 dollars américains de caution. Il avait été jugé et condamné à 13 ans de prison, une peine réduite en appel pour détournement de près de 50 millions de dollars destinés à la construction des logements sociaux pour les militaires et policiers dans le cadre du programme des 100 premiers jours du président Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2023 malgré l'entente signée avec le président Tshisekedi en 2018 pour que celui-ci, à son tour, lui prête main. La loi disqualifie ceux qui ont été condamnés pour détournement des fonds.
Au Bénin, le procès de l'opposant Joël Aïwo, professeur de droit, dont la candidature à la présidentielle d'avril 2021 avait été rejetée, s'est ouvert ce lundi à Porto Novo, où il a plaidé non coupable. L'universitaire en détention depuis 8 mois est jugé pour complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pour ces faits, il encourt jusqu'à 20 ans de prison.
Il comparaît aux côtés de son financier et de 2 militaires, dont un retraité. « Je subis la vengeance politique, je savais que mes idées dérangeraient », a déclaré à la barre l'universitaire qui a nié tout contact avec les 2 militaires. « Je n'avais jamais entendu parler d'eux », a-t-il affirmé.
Le Royaume-Uni a placé le Nigeria sur sa liste des pays dont les voyageurs sont interdits d'entrer sur le territoire britannique pour empêcher la propagation du variant Omicron. Cette décision est jugée discriminatoire et injuste par Abuja. Le point avec Lionel Gahima.
Cette décision est injuste, inéquitable, punitive, indéfendable et discriminatoire. Elle n'est pas non plus motivée par la science ou même le bon sens, a déclaré Lai Mohammed, ministre nigérian de l'information. Nous espérons que le gouvernement britannique va l'annuler immédiatement, a-t-il ajouté. Depuis lundi, les voyageurs venant du Nigeria sont interdits d'entrer au Royaume-Uni, à l'exception des ressortissants et des résidents qui devront observer une quarantaine de 10 jours à l'hôtel à leurs propres frais. Le Royaume-Uni a donc ajouté le Nigeria sur la liste rouge qui compte pour l'heure 10 pays africains. Le Canada aussi a banni les voyageurs en provenance d'Égypte, du Nigeria et du Malawi. La présence d'Omicron est confirmée dans quelques 40 pays après avoir été détectée par l'Afrique du Sud. Lundi, les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa et sénégalais Macky Sall ont dénoncé l'attitude des pays riches. Isoler un pays qui a séquencé un nouveau variant est non seulement discriminatoire, mais aussi contre-productif, a estimé Macky Sall dans son discours d'ouverture du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.
Ici à Washington, les autorités ont prié hier leurs ressortissants d'éviter de se rendre dans une dizaine de pays, dont la France et le Portugal, pourtant parmi les mieux vaccinés d'Europe, en pleine flambée épidémique sur le vieux continent. La liste des pays concernés par cette alerte des CDC comprend aussi en Afrique la Tanzanie. Le département d'État y a ajouté le Mali et les îles Fidji, qui ont notamment signalé ce lundi leur premier cas de variant Omicron.
Au Soudan, la police a tiré ce lundi des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants qui étaient à nouveau mobilisés contre le pouvoir dominé par les militaires. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Des cortèges de manifestants sont partis de différents quartiers de Khartoum au cri de non au pouvoir militaire. Le peuple a choisi les civils. L'armée peut te trahir, mais la rue ne te trahira jamais. À coups de gaz lacrymogène, la police a dispersé la foule au moment où elle arrivait aux abords du palais présidentiel, siège du gouvernement de transition. Pour tenter de faire baisser la tension depuis des semaines, les autorités ont promis un gouvernement formé de civils, mais qui se fait toujours attendre. Pour les manifestants, la nouvelle entente entre le chef de la transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le premier ministre civil, Abdallah Hamdok, est une trahison et même un retour à l'ancien régime d'Omar el-Béchir. La communauté internationale fait du respect du droit de manifester une condition sine qua non à la reprise de son aide au Soudan, interrompue depuis le putsch du 25 octobre. Elle demande aussi la nomination d'un gouvernement civil et la libération des dizaines de Soudanais arrêtés après le putsch.
En Éthiopie, le gouvernement a affirmé hier avoir repris les villes stratégiques de Dessie et Kombolcha, dans le nord du pays. Pour rappel, le conflit a pris un nouveau tournant il y a un mois lorsque les rebelles tigréens du TPLF ont annoncé avoir pris ces deux villes sans exclure de marcher sur la capitale Addis Abeba. Selon leur porte-parole Getachew Reda, les rebelles s'étaient retirés de plusieurs villes dont Kombolcha et Dessie, conformément à ce qu'il a appelé « notre plan ».
À Madagascar, le procès de 20 personnes, dont deux Français accusés d'avoir planifié d'en renverser et d'assassiner le président Ange Rajoel, s'est ouvert lundi dans un climat tendu au tribunal d'Anoussi, dans la capitale Antananarivo. Le point avec Rosine Mounezer.
Le ministère public a lu l'acte d'accusation devant les prévenus, dont les Français Paul Rafalorana, 58 ans, et Philippe François, 54 ans. Les accusés dans ce dossier, que la justice malgache a baptisé Apollo 21, sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et complot en vue d'assassiner le président malgache. Ils auraient échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches, dont le chef de l'État, selon la procureure générale. En août, deux semaines après le démantèlement de cette présumée cellule comploteuse, le président Rajoelina s'était interrogé sur l'éventualité d'une implication de la France. Il faut attendre les résultats de l'enquête qui va révéler s'il s'agit d'un acte isolé ou non, avait-il affirmé à la télévision nationale. Ce procès est censé durer 3 ou 4 jours, d'après les avocats.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Face à face virtuel ce mardi entre les présidents américains Joe Biden et russe Vladimir Poutine, le Kremlin dit ne pas s'attendre à une percée lors de l'entretien alors que l'Ukraine est au cœur des tensions. Le point avec Abdulrahman Dia.
Pour le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, il faut au moins espérer que les deux dirigeants puissent faire part de leurs préoccupations, les formuler de manière claire et y répondre. Même si nos relations sont toujours dans un triste état, il y a une animation dans certains domaines, a déclaré M. Peskov. Selon lui, même si ce dialogue n'aboutit pas pour l'heure, c'est toujours mieux de communiquer. Cet entretien en visioconférence est très attendu en raison des tensions qui s'accumulent autour de la situation en Ukraine. Joe Biden va aussi s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les jours qui viennent après son entretien avec Vladimir Poutine, a fait savoir la Maison-Blanche, précisant que le secrétaire d'État Anthony Blinken a eu hier lundi une conversation avec le chef de l'État ukrainien. L'Ukraine et ses alliés accusent la Russie d'avoir massé des troupes et des blindés à sa frontière en prévision d'une attaque. Moscou a plusieurs fois nié toute velléité belliqueuse et a accusé les pays occidentaux de multiplier les provocations en menant des exercices militaires en mer Noire.
Hier, Washington a annoncé que si la Russie attaque l'Ukraine, les États-Unis sont prêts à prendre des sanctions financières inédites et à stationner plus de militaires en Europe de l'Est sans aller jusqu'à une riposte militaire directe. La Minute Éco, Rosine Mounezero.
Brazzaville et Kinshasa ont conclu lundi un accord en vue de réaliser un grand projet énergétique qui vise à concrétiser le projet dénommé « Boucle de l'amitié énergétique ». L'accord a été conclu pour une durée indéterminée et devra faire l'objet d'une évaluation tous les 5 ans. Aucune indication n'a été donnée sur le coût de financement du projet. Dans une déclaration conjointe, les présidents des deux Congo ont invité les autres pays de la sous-région à se joindre à ce projet. La start-up Gozem, jusque-là spécialisée dans le développement d'applications qui fournit une multitude de services, a annoncé récemment son projet de se lancer dans les services bancaires numériques et de prêts à ses utilisateurs, rapporte Togo First. Il s'agira d'un dispositif permettant aux utilisateurs individuels d'échanger de l'argent contre de l'argent mobile via l'application. Selon Raphaël Dana, cofondateur de Gozem, l'Afrique francophone est un peu laissée de côté sur toutes les tractions importantes, un pari que Gozem entend relever. Au Nigeria, la consommation de sucre connaît une hausse importante depuis quelques décennies. Alors que cette tendance devrait encore se renforcer dans les prochaines années, les acteurs privés multiplient leurs investissements. Selon l'agence Ecofin, l'un des principaux conglomérats industriels du Nigeria, BUA Group, a bénéficié d'une enveloppe de 200 millions de dollars de l'Africa Finance Corporation pour l'achèvement de son projet sucrier.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. L'Afrique aura finalement 4 représentants en quart de finale de la Coupe arabe de la FIFA. La Tunisie rejoint l'Égypte, le Maroc et l'Algérie. En quart, après sa victoire 1-0 face aux Émirats arabes unis à Doha au Qatar, ce n'est pas le cas par contre pour la Mauritanie malgré sa victoire 2-1 face à la Syrie, la faute aux 2 premières défaites des Mourabitoun. Ligue des champions ce soir en Europe, dans la poule A, les places pour les 8e de finale sont déjà prises, déjà qualifiées. Le PSG et Manchester City reçoivent respectivement le club Brugge et le RB Leipzig. De leur côté, Leipzig et le club Brugge se disputent à distance la 3e place synonyme de ticket pour la Ligue Europa. Dans la poule B, derrière Liverpool, auteur d'un sans-faute, Porto, l'AC Milan et l'Atlético Madrid peuvent chacun rêver de s'inviter dans le top 16 européen. Porto part avec un léger avantage en recevant l'Atlético au stade du Dragon et peut se contenter du match nul pour se qualifier si Milan ne gagne pas face à Liverpool. À San Siro, les Milanais doivent réaliser un exploit face aux Reds pour continuer l'aventure européenne. A l'inverse, tout est joué dans le groupe C. L'intouchable Ajax Amsterdam de l'Ivoirien Sébastien Haller a obtenu sa qualification et la première place du groupe. Derrière, le Sporting Portugal s'est qualifié lors de la journée précédente. Le Borussia Dortmund se consolera avec la Ligue Europa au printemps alors que Besiktas n'a plus rien à espérer. Dans le groupe D, le Real Madrid accueille l'Inter Milan pour s'assurer de la première place. Dans un choc au sommet, plus bas, le shérif Tiraspol affronte le Shakhtar Donetsk. Les États-Unis n'enverront aucun représentant diplomatique aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin de 2022 en raison du génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang, a annoncé la Maison-Blanche. En étant présente, la représentation diplomatique américaine traiterait ces Jeux comme si de rien n'était, malgré les violations flagrantes des droits humains et les atrocités de la Chine au Xinjiang. Et nous ne pouvons tout simplement pas faire cela, a soutenu la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Avec ce boycott, aucun représentant du gouvernement des États-Unis n'assistera aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, mais les athlètes américains, eux, participeront bien aux compétitions. Depuis des mois, le gouvernement américain cherchait la meilleure façon de se positionner à l'égard des Jeux d'hiver. Un événement populaire et planétaire organisé du 4 au 20 février 2022 par un pays qu'ils accusent de perpétrer un génocide contre les musulmans ouïghours du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Retour de Joël Embiid, Philadelphie bat Charlotte 127 à 124, Milwaukee et Cleveland 112 à 104, Indiana et Washington 116 à 110, Oklahoma City et Détroit 114 à 103, Memphis et Miami 105 à 90.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, relations tendues entre l'État et les forces vives de la région de Banyagara. La population a démarré ce lundi matin une désobéissance civile jusqu'à nouvel ordre. Toutes les couches sociales sont impliquées dans cette action qui est bien suivie selon des témoins. La décision a été prise suite à l'attaque de vendredi dernier sur la route nationale numéro 15 au niveau du village de Songo. Une attaque qui a fait plus de 30 morts et plusieurs blessés selon des sources locales. Notre correspondant à Mopti, Mamadou Bakoum, nous donne plus de détails.
Services publics et privés ainsi que les ONG, presque tous étaient fermés ce lundi à Banyagara. C'est pour exécuter la décision des forces vives de la région, lesquelles ont appelé à une désobéissance civile suite à l'attaque des minibus sur la route nationale numéro 15 au niveau du village de Songo le vendredi dernier. Une attaque qui a fait plus de 30 morts et plusieurs blessés. Moussa Tembili est le deuxième adjoint au maire de la commune urbaine de Banyagara.
C'est notre consternation totale qui nous a poussé à cette désobéissance civile. Parce qu'on s'est dit trop, c'est trop. Parce que nous avons terminé toutes les cartouches, les voies et les coups que nous avons eu à faire. Par-ci, par-là, commencer par des marches, faire encore des pétitions, faire des écrits, des fora. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous avons tout fait. Rien n'a changé. Voilà ce qui nous a poussé vraiment à aller à l'idée d'une désobéissance civile.
Cette désobéissance civile concerne tous les secteurs, excepté quelques-uns, précise le lit communal.
Nous avons demandé à ce qu'on ferme tous les édifices publics et parapublics, même les ONG de fermer, pour montrer notre mécontentement, pour que vraiment l'État nous écoute. Les services qui ne sont pas concernés vraiment par cette désobéissance civile, il y a d'abord la santé, le commerce, également le transport.
Selon les initiateurs, si l'État ne réagit pas, ils compteront mener d'autres actions, rassure Moussa Tembeli, deuxième adjoint au maire de Banyagara.
Si l'État restait sourd à cette désobéissance civile, nous avons aussi d'autres stratégies, nous avons aussi d'autres canaux. Plus appropriés encore, nous allons partir en renseigner et faire d'autres actions dont je ne vais pas dévoiler tout de suite.
Face à la situation, le tout nouveau gouverneur de la région a rencontré la notabilité de la ville. Objectif, les demander de surseoir à cette désobéissance civile, une demande qu'elle a rejetée avant de réitérer son soutien aux forces vives de la région. Mamadou Bakoum Mopti pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, quelle réponse régionale face aux groupes armés? Fin novembre, quatre pays, le Burkina, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo, ont lancé une opération conjointe contre les groupes djihadistes. L'armée ougandaise mène depuis quelques jours des opérations contre les ADF dans l'est de la RDC. Et il y a quelques mois, des soldats rwandais sont venus à la rescousse du Mozambique pour vaincre les djihadistes dans la province du Cabo Delgado. Quelle stratégie régionale face aux djihadistes? La mutualisation des forces militaires peut intervenir à bout de ces groupes armés. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En République démocratique du Congo, la Cour de cassation a accordé une liberté conditionnelle à Vital Kamerhe, condamné à 13 ans de prison pour détournement de deniers publics. Eddie Issango a joint à Kinshasa l'avocat de l'ancien directeur de cabinet allié du président Félix Tshisekedi, maître John Kabuto.
Comme président de l'INC et de surcroît directeur de cabinet de chef de l'État, qui du reste dans les bêtises judiciaires n'y était pas et puis il ne pouvait même pas s'y retrouver parce que c'est un monsieur qui respecte beaucoup plus l'état des droits et puis qui fait confiance à la justice. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une ordonnance de mise en liberté provisoire qui appelle à une rumeur nationale et internationale. C'est comme ça que vous êtes en train de m'interroger à partir de Washington pour vous dire que non, voilà, M. Vital Kamerhe mérite quand même une liberté et qu'il a vraiment coopéré avec la justice. Nous avons vu comment il y a eu des dérapages, ça et là, depuis la libération de certains criminels économiques. Mais M. Vital ne s'est jamais retrouvé dans cette peau de criminel économique ou financier, ou ce que vous avez appelé la délinquance financière, il ne s'est pas retrouvé. Mais c'est comme ça que vous avez compris qu'aujourd'hui, la Cour de cassation a pu quand même lui accorder la liberté.
Mais il s'agit jusque-là d'une liberté provisoire ou conditionnelle.
Mais cela n'empêche pas que le monsieur soit en mouvement libre, qu'il puisse jouir de ses plénitudes sanitaires et civiques en attendant que la décision finale soit rendue. Et je pense que la Cour de cassation pourra vraiment revoir, il y a ce que nous appelons chez nous, la révision de toutes les décisions prises depuis la première instance et à la seconde instance. Et la Cour de cassation pourra juste revenir sur toutes les décisions et acquitter M. Vital Kamerhe, d'autant plus que non, il y a absence des éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics. Parce que vous êtes sans ignorer que non, depuis que nous avons commencé ce procès, M. Vital Kamerhe ne s'est jamais retrouvé dans l'apanage de cette infraction.
Il est encore en prison, mais quand sortira-t-il?
D'après nos sources, l'ordonnance lui accordant la mise en liberté loge déjà l'administration pénitentiaire. Mais vous êtes sans ignorer que non, il y a des formalités d'usage. À conclure, je pense que les formalités d'usage se feront.
Ça veut dire quoi, mardi?
Oui, oui, effectivement, parce que sa santé acquise encore beaucoup de faiblesses. Et nous vous informons que non, jusque-là, il est encore sous surveillance médicale.
D'aucuns, justement, ont posé beaucoup de questions sur le lieu où était M. Vital Kamerhe, parce qu'il était malade. Est-ce qu'il est en prison ou dans un centre médical?
M. Vital Kamerhe, depuis un certain moment, depuis que sa santé a acquisé beaucoup de faiblesse et beaucoup de défaillances. C'est d'abord un monsieur, un citoyen congolais qui mérite quand même une protection des droits humains. Et alors, comme cette protection, sa place ne pouvait être que dans une formation médicale afin de remonter sa santé.
Maître John Kaboto, avocat de Vital Kamerhe.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, en RDC, à Lubumbashi, évidemment, sur le 102.8 FM.
Le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo s'associent pour exploiter et transformer les réserves de gaz naturel en courant électrique, une denrée qui fait cruellement défaut sur les deux rives du Congo. Un accord de coopération énergétique a été signé hier à Brazzaville entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Les détails avec notre correspondant Arsène Sévrin.
Deux chefs d'État se sont engagés à réaliser dans les meilleurs délais ce projet. Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi ont à cet effet demandé à leur gouvernement à vite se mettre au travail pour que les choses ne traînent pas. Dans la déclaration conjointe qu'ils ont signée, il est mis en avant l'exploitation des ressources naturelles dont disposent les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, indique ici l'intérêt d'un tel projet.
Que la République démocratique du Congo exploite le barrage hydroélectrique d'Inga dont les capacités peuvent alimenter en courant électrique les territoires respectifs de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, que la République du Congo dispose d'une centrale électrique à gaz située à Pointe-Noire, dénommée Centre électrique du Congo, CEC, qui a les capacités d'alimenter les pays voisins, tenant compte du projet Boucle de l'amitié énergétique, projet qui respecte les normes écologiques et qui est une opportunité pour les deux pays.
L'accord de bouche énergétique qui vient d'être mis en place à Brazzaville vise de mettre en valeur les réserves de gaz naturel. Pointe-Noire, la ville pétrolière du Congo, développe déjà un bel exemple avec le centre électrique du Congo. Le ministre congolais des hydrocarbures Jean-Richard Bruno Yitoua expose l'impact de ce projet.
La boucle de l'amitié énergétique alimentera plusieurs lignes à haute et très haute tension destinées à fournir de l'énergie, notamment aux industries minières en République démocratique du Congo. Les lignes de transport électrique qui composeront la boucle de l'amitié énergétique sont prévues de fonctionner in fine à la tension de 400 kV, permettant ainsi aux différents consommateurs d'avoir accès à une énergie stable et efficiente, condition sine qua non de la réalisation d'un développement durable dans notre sous-région. Au cœur de ce projet structurant et transformationnel se trouve le défi du développement de l'industrie gazière en République du Congo.
Annoncé d'abord avec un troisième pays, l'Angola, finalement l'accord Bouche de l'amitié n'a concerné que les deux Congos. Ces deux pays sont actuellement fortement secoués par les coupures intempestives d'électricité. Le président Tshisekedi a regagné Kinshasa à la fin de la journée de lundi. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Pour terminer, Kermam, qui signifie « chez ma grand-mère » en langue wolof, est le titre du nouvel album de l'artiste, musicien et compositeur sénégalais de renommée internationale Kamdello, sorti le 3 décembre à Dakar, la capitale du Sénégal. Cet album est composé de 9 morceaux dans lesquels il chante la politique en appelant le peuple sénégalais à la paix. Reportage de notre correspondant à Dakar, Nama Diara.
Dans ce nouvel album, Cœur Maman 791 de l'enfant de Jaslem à Dakar, capitale sénégalaise, Kamdello, comme à l'accoutumée, mélange des arts musicaux tout en gardant l'originalité avec l'utilisation d'instruments traditionnels dans ses chansons comme l'akora, le tamang, le saba. Kamdello nous rappelle sa carrière musicale.
Je dirais, ça fait presque 22 ans que je fais la musique et j'ai eu la chance de fréquenter l'école des arts avant de faire la musique. J'ai fait 3 albums solo, mais avant, j'étais dans un groupe qui s'appelait le groupe Tiado. On avait fait à peu près 5 ou 6 albums. En tout et pour tout, peut-être ça, j'ai 10 albums. Parce qu'avant, c'était moi le lead vocal du groupe. C'est après que j'ai fait une carrière solo.
L'album Cœur Mam, c'est-à-dire Chez ma grand-mère, il nous explique la raison de ce titre choisi pour cet album.
Pourquoi Cœur Mam 791? Parce que chez la grand-mère, les dimanches, toute la famille se ressemble là-bas. Bon, on parle de beaucoup de choses. On parle de la politique, on parle de l'éducation, les repères, tout et tout. C'est pour cela que j'ai traité cet album Cœur Mam 791.
Aujourd'hui, avec cette période de numérisation, de nombreux artistes africains sont confrontés au problème de la vente de ces albums après leur sortie sur le marché. Face à cette situation, Mintou Gaye, manager de Kamdello, indique qu'ils sont présents sur plusieurs grandes plateformes digitales afin de vendre son album.
Les plateformes sont des plateformes mondiales, Deezer, Spotify, et également des plateformes africaines. Aujourd'hui, on va être également présent sur une plateforme sénégalaise qui s'appelle Dixon et qui va rayonner. Donc c'est vraiment un moyen de faire connaître sa musique, de vendre également sa musique via le digital. Et ce qui fait qu'un artiste va rentabiliser un album, il faut qu'il ait grandes opportunités de faire connaître cet album à travers des soirées, des concerts à l'intérieur du pays et à l'extérieur.
L'artiste musicien, compositeur sénégalais Kamdello dénonce également dans cet album la tension actuelle qui existe dans l'espace politique et dans d'autres domaines au Sénégal.
Je parle de la paix par rapport à ça, parce que c'est pas intéressant de faire de violenter les gens. Dans toute chose, c'est pas bon. Du côté du sport, du côté de la politique, du côté du tout, c'est pas intéressant, franchement.
Cet album de 9 titres, Cœur Mam 791, sorti le 3 décembre à Dakar, produit par Kamdello lui-même, prévoit de tourner des concerts en Afrique et à travers le monde pour l'année 2022. Nama Diara, Dakar, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Eric Manirakidza. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnou et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.